Bienvenue à tous dans les Midi de Culture. À 13h, je recevrai Marie-Josée Malice qui se sert de l'Odéon comme laboratoire de forme. Nous en parlerons avec elle, mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture avec Sophie-Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur la place de Padoue à Nancy, à côté de la statue du sergent Jean-Pierre Hippolyte Blandan, figure de la colonisation de l'Algérie, a été inauguré un contre-monument, un disque de métal réfléchissant d'1,60 m avec un texte gravé, un dispositif imaginé par Dorothée Myriam Kellou, dessiné par Colin Ponto et réalisé par les apprentis du pôle formation de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Comment ce contre-monument nous permet-il de penser autrement la place des statues dans l'espace public? C'est notre dossier du jour. Laure Murat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et vous avez notamment publié en 2025 l'ouvrage « Toutes les époques sont dégueulasses » aux éditions Verdier. À Nancy a été inaugurée récemment la table de désorientation, un contre-monument, un miroir face à une statue du sergent Jean-Pierre Hippolyte Blandan, symbole de la colonisation de l'Algérie. Sur ce miroir est inscrite la phrase « Qui es-tu, sergent Blandan? Regardons dans le miroir malpoli de notre mémoire ». Alors ce titre est particulièrement intéressant, Laure Murat. Est-ce qu'il faut accepter d'être désorienté pour reconsidérer notre mémoire?
Moi, je crois que c'est la meilleure solution. Et je trouve que ce contre-monument, puisqu'il s'intitule comme cela, est une excellente sortie par le haut, si on veut, pour à la fois reconnaître la colonisation qui s'est passée et protester contre l'horreur de cette même colonisation. Je trouve que c'est une très belle solution qui ne déboulonne pas la statue. Moi-même, je suis plutôt favorable au déboulonnement de certaines statues. Mais là, je trouve qu'il y a une inventivité par rapport à l'espace public et qui oblige les gens à se désorienter pour mieux se réorienter. Je trouve que c'est très intéressant.
On peut voir ce contre-monument aussi comme une archive vivante, bien qu'éphémère, par ce miroir qui reflète toujours autre chose, mais qui nous renvoie constamment à nous, qui nous oblige à penser. Alors, est-ce que le fait de contextualiser, et puis d'ailleurs, on peut peut-être imaginer que nos contextualisations actuelles seront de nouveau contextualisées dans 50 ans, pourrait finalement devenir comme un palimpseste de mémoire qui permet aussi de rendre l'objet visé justement constamment vivant, l'empêche d'être figé dans son époque et construit comme ça une archive au long cours et toujours en mouvement?
Absolument, je pense que c'est une façon de faire de l'histoire, puisque, vous savez, il y a cette expression « on ne refait pas l'histoire ». Si, si, précisément, on la refait tout le temps, et c'est bien pour ça qu'elle est vivante, et que c'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'on change les faits de refaire l'histoire, mais c'est d'avoir un nouveau regard sur elle. Et là, je trouve qu'en plus, il y a une offre de participation du spectateur, une question qui est posée, et ça, il me semble que c'est faire de l'histoire. Donc, c'est une excellente solution. Je trouve d'une façon générale qu'il faut être créatif avec ces questions. Il faut essayer d'éviter d'être négatif, de détruire, etc. Mais il faut essayer de trouver des solutions inventives comme celle-là.
Ce qui est intéressant, là, justement, donc c'est une œuvre artistique qui répond à l'œuvre. Est-ce que c'est pour vous la meilleure manière pour offrir un regard critique, de répondre à l'art par l'art? Ou sinon, vous imagineriez quels autres processus ou dispositifs qui pourraient aussi être intéressants?
Alors, ce qu'on imagine en règle générale, c'est pas moi spécifiquement, mais c'est en général les solutions qui sont proposées, c'est cette fameuse contextualisation. Mais je trouve que le geste artistique est beaucoup plus, interpelle bien davantage le spectateur, parce qu'il est obligé d'aller regarder, il est obligé de se poser des questions. Aujourd'hui, la contextualisation, c'est bien, c'est mieux que s'il n'y avait rien, et en même temps, pour qui veut s'intéresser à qui est Blandan, il regarde sur Internet et il trouve tout de suite. C'est d'une grosse différence d'avec il y a 60 ans, ou 50 ans. Donc, les informations, on les trouve. Mais est-ce qu'on a envie de trouver les informations? Est-ce que quand vous passez dans votre rue, sur la place de votre village, etc., et que vous voyez la statue d'un colonisateur ou d'un colon, est-ce que vous avez vraiment envie de savoir qui c'est? Pas forcément. Si on vous indique qu'il faut aller chercher, ça me semble beaucoup plus actif, participatif et intéressant pour les citoyens, tout simplement. Et après, on se fait son opinion.
Oui.
On n'oblige à rien, mais on indique, on réoriente. On ne désoriente pas tellement, on réoriente le spectateur, le citoyen, vers l'histoire. Parce que bien souvent, on accuse les dits wokistes d'être ignorants et de vouloir effacer la mémoire. Mais je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est exactement l'inverse. C'est de vous demander qu'est-ce qui s'est passé, qui était cette personne, qu'est-ce qui s'est passé en 1830 avec la colonisation de l'Algérie jusqu'en 1962. Ça me semble plus intéressant.
Et voilà. Pour vous, justement, passer par le sensible plutôt qu'avoir, par exemple, un écriteau à côté de cette statue, en l'occurrence, c'est plus intéressant.
Oui, ça c'est mon opinion personnelle. Qu'il y ait une contextualisation, c'est bien, hein, une fois de plus, hein, c'est mieux que s'il n'y avait rien. Mais je trouve que le geste artistique est beaucoup plus intéressant. Alors, je sais qu'il y a en ce moment à Los Angeles une exposition sur des monuments de généraux confédérés, c'est-à-dire les sudistes qui étaient en faveur de l'esclavage, du maintien de l'esclavage, qui ont été déboulonnés, qui ont été démembrés et dont des artistes ont fait de nouvelles œuvres. Ça peut aussi être une solution. Mais évidemment, là, dans ces cas-là, étant donné que la statue a été déboulonnée, elle n'est plus sur la place publique, elle est passée au musée. Mais c'est bien au musée et dans les archives qu'on fait de l'histoire. Je pense que ça aussi, c'est important. On nous dit, on détruit l'histoire, on nie l'histoire en déboulonnant les statues. Je ne suis pas d'accord. Les statues, c'est pas ça qui fait l'histoire. La statue, c'est une œuvre de propagande. Hein, c'est une œuvre de propagande d'État. C'est une promotion d'un moment de l'histoire qui n'est pas le plus glorieux de la France. Donc, laissons les statues peut-être, mais interrogeons-les. Ça me paraît plus intéressant.
Et dans vos écrits, vous faites une différence, par exemple, entre réécriture et récriture. Comment différenciez-vous ces deux termes ? Est-ce qu'ils peuvent s'appliquer, selon vous, justement, à d'autres champs artistiques, le cinéma, mais aussi la sculpture dont on parle aujourd'hui ?
Alors, dans « Toutes les époques sont dégueulasses », j'ai profité de cette double orthographe du mot « réécrire » en français, qui peut s'écrire avec deux « e » ou un seul, et j'attribue arbitrairement une fonction à la réécriture, qui par exemple Racine réécrivant les tragédies antiques ou Joyce écrivant Ulysse d'après Homère. Donc c'est évidemment un geste créateur qui inclut aussi les adaptations, par exemple de livres au cinéma ou à l'opéra, etc., etc. Donc quand il y a geste créateur, j'appelle ça réécriture. Mais quand il s'agit de corriger des textes, que ce soit des corrections orthographiques ou des corrections morales, comme on a tendance à les faire, surtout dans les pays anglo-saxons, pour éviter toute allusion au racisme et tout mot insultant, ce qui, après tout, est une question légitime. Je crois que là, la solution est malheureuse parce qu'on aboutit à une falsification historique et on ne comprend plus rien, au fond, au racisme des années 50 ou à la misogynie des années 50, par exemple. Donc, je suis pas très favorable à ça. En revanche, je pense que oui, la contextualisation pour un livre, c'est très facile puisque vous faites une préface, une postface, des notes, etc.
Merci beaucoup, Laure Murat.
Merci à vous.
Suite de l'actualité culturelle, le secrétaire permanent de l'Académie suédoise démissionne.
Oui, l'Académie suédoise, qui attribue tous les ans le prix Nobel de littérature, a annoncé samedi 20 décembre la démission de Mats Mamm, après 7 ans consacrés à redorer l'image de l'institution. Il avait pris ses fonctions en juin 2019, à un moment où l'Académie suédoise, fondée en 1786, était secouée par plusieurs scandales. À compter du 1er juin 2026, Ingrid Carlberg, membre de l'Académie, auteur et journaliste, le remplacera au poste de secrétaire permanente.
Et pour finir, l'artiste britannique Banksy a revendiqué hier un nouveau pochoir apparu dans les rues de Londres.
Et oui, sa nouvelle œuvre représente deux personnes, vraisemblablement des enfants, allongés sur le dos et chaudement vêtus de manteaux, bonnets et bottes. Tous les deux regardent vers le ciel et l'un d'eux pointe quelque chose du doigt. L'artiste, dont l'identité est toujours mystérieuse, en a revendiqué la paternité en postant une photo sur son compte Instagram, mais n'a en revanche rien dit d'un pochoir identique apparu quelques kilomètres plus loin.
Merci beaucoup Sophie Catherine, on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. Il est 13h, prenez place. La suite des Midi de Culture commence maintenant.